Dans ce journal, on parle Jeux Olympiques avec le suivi des travaux et des infos sur le relais. On s'intéresse aussi à la météo et à un festival à Hawaï. Le journal de 7h, il est présenté par Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On commence par ce point d'étape sur les travaux à Teahupo avant les JO.
Oui, la cellule Toi Renoui Paris 2024 et les différentes parties concernées ont fait le point sur les chantiers lancés hier lors d'une visite de site. Tout doit être prêt pour l'épreuve olympique prévue fin juillet, mais bon nombre d'infrastructures doivent être livrées avant la fin mai pour l'étape de la WSL qui sert de test event avant les Jeux. Alors c'est notamment le cas de la fameuse tour des juges qui est posée et montée sur le site. Il reste toutefois encore quelques petits travaux à mener, notamment en ce qui concerne le câblage pour assurer la connexion Internet. Mais dans l'ensemble, tout est terminé. L'architecte Fabrice Foison nous fait les présentations étage par étage.
Tout en haut, ce sont les juges évidemment officiels, avec derrière, tout de suite derrière, le système, si vous voulez, de retour caméra, retour écran, qui permet de, vous savez, c'est quand les juges ont besoin de voir un ralenti pour voir exactement ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le dernier étage. L'étage d'en dessous, c'est un étage plus technique. Les techniciens sont installés là. Et il y a également tout le système donc, de baies de brassage dont on parlait, le système informatique. Et le premier étage, c'est juste l'accueil. En fait, c'est un ponton d'accueil qui a été réduit. Il y a simplement donc, une toilette, mais toilette sèche.
Voilà, et à noter que cette tour, vous le savez, sera démontée après les Jeux Olympiques dans l'optique d'être réutilisée à l'avenir, à Teahupo comme ailleurs. Et parmi les installations qui n'ont pas vocation à rester sur site en permanence, il y a aussi les aménagements temporaires du Domaine Rose, cette ancienne taraudière viabilisée par Paris 2024 pour en faire son centre opérationnel et logistique juste derrière la pointe Faremahora d'où partiront les athlètes. Les travaux y sont terminés et le site est à disposition de l'organisation depuis début avril avec des chapiteaux, des bungalows et des réseaux temporaires. Tout cela sera démonté après la compétition, mais certains équipements sont loués et retourneront donc dans leur société d'origine. D'autres, en revanche, vont bénéficier d'une seconde vie, comme nous le précise Fanny Donarel en charge des aménagements temporaires pour Paris 2024.
On a certains équipements qu'on a achetés. Eux feront partie d'un programme de seconde vie qu'on est en train de définir. Ils resteront sur le territoire après les Jeux dans un programme de seconde vie qu'on définit en ce moment. On a par exemple, sur le domaine rose, des bungalows temporaires. Ceux-là, par exemple, seront remis dans un programme de seconde vie après les Jeux. On a des équipements sportifs, on a du mobilier, pas mal de mobilier. Donc voilà, différents types d'équipements que là, on a achetés localement et donc qui resteront sur le territoire.
Et en ce qui concerne les aménagements permanents, la nouvelle passerelle entre le PK0 et la pointe Faremahora est en cours de finition. Cette structure en acier de 26 tonnes, 44 mètres de long et 3 de large devrait être livrée avant la Tahiti Pro. Ce qui ne sera pas le cas en revanche de la marina de Teahupo, dont le chantier a pris du retard pour des questions géotechniques. L'étape WSL pourra bien s'en servir, mais pas dans sa totalité. Le chantier devrait tout de même être livré à temps avant l'Olympiade de fin juillet.
Et d'ailleurs, on en sait plus sur l'organisation du relais de la flamme.
Oui, le programme du passage de cette flamme se précise au Fénois. Alors comme prévu, les festivités auront lieu le 13 juin, un événement exceptionnel qui va donc mobiliser des moyens tout aussi exceptionnels. Le relais qui passera par les communes labellisées terres de jeu, c'est-à-dire toutes celles de Tahiti sauf Faa, aura lieu sur des tronçons choisis avec attention par les mairies. Chaque commune a prévu de célébrer son passage à sa manière, mais le cahier des charges imposé par Paris 2024 va nécessiter de gros efforts en termes d'organisation du trafic sur la seule route de l'île. Un arrêté de réglementation de circulation sera d'ailleurs pris pour permettre aux 350 gendarmes missionné d'assurer la sécurité. Les précisions de Xavier Marotel, secrétaire général du Haut-Commissariat.
D'une part, des interdictions de stationnement dès la veille au soir, 18h, sur tous les tronçons qui seront empruntés par le convoi de la flamme. Et puis, au moment du passage des relayeurs, la circulation sera interrompue, donc il y aura des interdictions de circulation qui commenceront au moins une demi-heure avant. Voilà, peut-être un peu plus avant si on a un peu de retard avec les différents relais, mais au moins une demi-heure avant. Et on ne rétablira la circulation qu'après le dernier véhicule du convoi soit passé.
Et à l'entendre, les festivités autour de la flamme olympique telle qu'elle s'annonce au Fénois ont fait l'objet de plusieurs tractations différentes selon les différentes municipalités qui ont chacune leur spécificité. Et si ces dispositions peuvent paraître lourdes de ses conséquences, elles ont pourtant été allégées, donc en fonction des contraintes locales. C'est en tout cas ce qu'assure Teva Karoteauna, chargée de projet de la cellule Toi Renoui.
Il y a plusieurs choses qui ont été négociées sur plusieurs niveaux d'ailleurs, même en parlant de la sécurité, si on doit commencer par là, parce qu'au départ, les fermetures jours de route, c'était 3 heures avant. Donc c'est vraiment quelque chose au niveau de la construction qu'on a pu dire et on a pu argumenter en disant la faisabilité et la non-faisabilité des 3 heures. Et donc on est réussi à terminer à 30 minutes. Mais effectivement, après, on a souvent, même pour la célébration au niveau du chaudron, on a dû vraiment argumenter de ce qu'on voulait faire, de la façon dont on voulait le faire.
Voilà, et à noter que les services du Haut-Commissariat demandent à la population, mais aussi aux entreprises, de s'organiser en vue de cette journée qui s'annonce noire sur les routes. Les collèges de Pire, Papeete et Efa seront par exemple fermés à partir de 13h30 ce jour-là.
Une bonne nouvelle pour la météo.
Et oui, et pour tous les habitants de la Polynésie, qui est aujourd'hui un des seuls territoires d'outre-mer à ne pas être équipé en radar météorologique. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, en a 3 et au Fénoua, l'idée est dans les cartons depuis plusieurs années sans se concrétiser. Le projet a fini par être intégré dans un contrat de développement qui a été voté la semaine dernière à l'Assemblée avec quelques débats, on vous en avait parlé. 93 millions de francs pour l'État, 93 millions pour le pays, le reste à la charge de Météo France. On parle d'une note totale de plus de 300 millions, mais pas pour rien. Aujourd'hui, les prévisionnistes du Fénoua ne peuvent observer le ciel que par satellite. Et malgré les avancées technologiques, il est difficile de faire dans la précision quand on a l'œil à 900 voire à 36 000 km de la Terre. Le radar, lui, voit le ciel d'en dessous et en 3 dimensions. De quoi mieux prévoir à courte échéance les déplacements des grains et des orages et donc mieux organiser les alertes à destination de la population, des autorités ou même des avions. Alors, cet instrument de 1,6 tonnes qui doit être perché en une tour devait être installé au Mont Marao. Mais vu les problèmes de foncier, d'accès et vu l'altitude un peu trop élevée, c'est finalement vers Moorea que les regards se sont tournés. Une expérimentation a d'ailleurs lieu depuis plus d'un an avec un mini-radar sur l'aéroport de Temé, ça pourrait être un site intéressant, mais d'autres zones sont prospectées du côté de l'île Sœur. Les dernières études doivent être lancées en 2025 pour une mise en service de ce radar entre la fin 2027 et le début 2028.
Côté culture, la troupe Temaeva se prépare, Valdemar.
Oui, elle va participer à la 13e édition du FestPAC, le Festival des Arts du Pacifique, prévu du 6 au 13 juin à Oahu, sur l'archipel d'Hawaï, en présence de nombreuses nations du Pacifique Sud. Artisanat, musique, danse, art contemporain, ce rendez-vous est devenu l'occasion pour chaque délégation de promouvoir la culture de son pays. Et c'est donc l'association Temaeva qui représentera le Fénoua, avec une partie de ses danseurs, mais aussi des musiciens, des sculpteurs, des graveurs, des infographistes ou encore des auteurs. Au total, ils seront une centaine à se déplacer. Pour Fabien Dinard, directeur du conservatoire et directeur artistique de la troupe Temaeva, c'est aussi l'occasion de représenter l'héritage du fondateur de la troupe Coco Otaota.
C'est une fierté parce que Temaeva, c'est quand même l'héritage du grand maître de Coco qu'on veut transmettre à cette jeune génération. C'est une pensée, c'est une philosophie. Temaeva, ils ont une façon de fonctionner. On ne veut pas dévier, on n'a pas envie de ressembler à n'importe quel groupe lambda. Tous nos mouvements sont basés sur ce qui est écrit. On a envie de donner du sens à tout ce qu'on fait. C'est ça qui est important. Et quand on donne du sens, on transmet également une émotion.
Et pendant cette semaine de festival, la troupe va également chercher de l'inspiration.
On regarde tout le monde, on regarde ceux qui nous ressemblent, comme les Ilkos. J'ai hâte de les voir parce que j'ai envie de savoir comment a évolué leur danse. Nos danses ressemblent presque. Est-ce qu'on a évolué pareil? Est-ce qu'ils sont restés tels quels, très authentiques? On verra même au niveau de la musique également. Bon, j'ai envie de revoir les Papouas. Je me demande si aujourd'hui ils vont revenir encore comme c'était à l'époque. J'aime bien voir l'aborigène aussi, puis nos cousins maoris, nos cousins hawaïens, sont très forts, hein. C'est le rituel protocolaire.
Voilà, la délégation menée par Temaeva partira donc le 1er juin. Elle souhaite montrer ce que les Polynésiens savent faire et faire briller la culture du pays. Le thème cette année, c'est l'océan.
On parle pour finir de cet événement sportif et festif ce samedi.
Et oui, c'est devenu un rendez-vous attendu par beaucoup. La Color Fun Run, organisée par Tahitian Running Team, est de retour demain dans les rues de Fareute. Une 9e édition qui reprend la recette des éditions précédentes. Un circuit de 2 km de course que les participants peuvent effectuer plusieurs fois, avec beaucoup d'ambiance, des stands d'animation et surtout des poudres colorées envoyées par les organisateurs tout au long du parcours. 2500 participants à partir de 6 ans avaient répondu présent l'année dernière. Il pourrait être autant cette année. Les inscriptions ne sont d'ailleurs pas terminées. Direction Intersport Fareute ou Tahiti Sport Aravao jusqu'au jour même de la course demain à midi, c'est au prix de 2000 francs. A noter que nous recevrons ce matin l'organisatrice de cette Color Fun Run, Maëlie Faugera, en direct sur ce plateau puis sur celui de Thierry FM. Ce sera à partir de 8h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 7h30 pour la revue de presse d'actualité locale.
Merci beaucoup, Valdemar. On passe à la météo sur Radio 1.